peut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, nature de train nous offrir que les mots et les images de ta télé. N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 les cris et les plaintes des forces à modernes? À quoi bon crier dans cet univers des la souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous donner. Mais quel est le mot de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres barons. Fini le rigole.
On va vous massacrer.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer, toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Et voilà, vous êtes à l'écoute de Bruit de tôle sur Canal Sud, en direct le jeudi de 19h à 20h. Au sommaire de cette émission, nous parlerons du CRA de Vincennes. On entend un peu parler dans les médias, nous en dirons d'autres choses et nous donnerons aussi la parole aux détenus, à ceux d'aujourd'hui et ceux d'il y a quelques années. Ensuite, nous parlerons aussi d'une manifestation en Suisse et nous irons aussi aux États-Unis parler aussi de ce dont les médias ont un petit peu répercuté, hein, Ferguson, et pour peut-être en dire autre chose, des événements qui ont lieu dans cette région suite à l'assassinat d'un jeune noir aux États-Unis. Et puis, juste quelques brèves, mais surtout, pendant l'émission, nous aurons des paroles de détenus lors d'un atelier d'écriture. Ça s'est passé à Clairvaux, donc c'est un son, un DVD. Alors, vous avez à la fois le film et le CD. On vous donnera toutes les coordonnées dans l'émission. Et donc, nous entendrons des paroles de détenus sur le ressenti à l'intérieur de la prison pendant l'émission. Voilà, donc vous pouvez en tout cas le jeudi en direct nous appeler au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales. Voilà, c'est parti.
Oh, oh. Écoutez les enfants. Vous entendez ?
Oui !
C'est une invitation.
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 Chez Massilia,
c'est une toute petite danse, toute petite danse. L'eau papé, l'eau monsieur qui tiennent la cadence. Toute petite danse, c'est une toute petite danse. Massilia revient, ça met les pensées en transe.
Tu cherches le roi, tu ne pouvais pas mieux tomber.
T'as mis en plein dans le mille, au fond t'as tout gagné.
Surtout que tu arrives pile pour notre spécialité.
Une combinaison agile depuis longtemps rodée.
D'un côté le papé,
de notre côté moussuté.
Deux micros pour un guédé,
deux micros pour
pour un reggae.
Deux micros pour les terribles.
Et deux micros pour raconter.
Deux micros pour les câlins.
Et deux micros pour emballer.
Deux micros, une platine ou un vieux poste déglingué.
Et dès qu'on va poser nos rimes, tout sera aïolisé.
Je t'invite vite, vite à rejoindre ta position.
Nous ne serons quitte, quitte qu'en te voyant en action.
C'est bon pour ta mécanique, c'est bon pour ta réflexion.
Et si t'es contre panique, on a atteint notre ambition.
J'envoie les bons styles.
Je fais galoper la version.
Et j'envoie les mots du quartier.
J'envoie les bonnes expressions.
On s'adresse à tous et toutes.
Pas de discrimination. Tous les sujets nous intéressent. Nous aimons la discussion. Même sur les choses qui blessent, on exprime notre opinion. C'est une toute petite danse. Toute petite danse. L'eau papé, l'eau mousse qui tiennent la cadence. Toute petite danse. C'est une toute petite danse. Massilia revient, ça met les possibles en danse.
Quand ça cabale,
on se régale.
Pas de problème.
On sent système.
Les matamores,
on les ignore.
Les tristounets
nous ont gonflé.
Ah, laisse-la les coincés, laisse-la les sectaires.
Laisse-la les papiers, laisse-la.
C'est une invitation à sauter toutes les barrières.
Agrippe l'aviron et fait avancer la galère.
C'est une toute petite danse. Toute petite danse. L'eau papé, l'eau mousse qui tiennent la cadence. Toute petite danse. C'est une toute petite danse. Ma cigare revient, ça met les poncilles en danse.
Au micro,
moussouté.
Au micro, l'eau papé.
Je suis sur ma lancée.
Rien ne peut m'arrêter.
Je suis un vieux routier.
Plus à fond que jamais.
J'ai le style à serrer.
J'ai le verbe assuré.
Les connons balayés.
Il faut les ignorer.
Les poncilles déchaînés.
Pour nous accompagner.
Les idées boulayées.
Les idées partagées.
Les maillots sont trempés.
Et c'est ça qui nous plaît.
On pense. C'est du monde en bas donc de la haute technologie.
C'est du monde en bas donc de la ligne à haut débit.
C'est du monde en bas donc pour les grands et les petits.
C'est du monde en bas donc.
Tu peux ramener tes amis. C'est une toute petite danse. Toute petite danse. L'eau papé, l'eau moussu qui tiennent la cadence. Toute petite danse. C'est une toute petite danse. Massilia revient, ça met les poncilles en transe.
C'est une
Le 21 août 2014, Abdelhak Goradia, sans papier, enfermé au centre de rétention de Vincennes, est mort, étouffé dans la voiture des flics qui l'emmenaient à l'aéroport de Roissy, d'où il devait être expulsé. Toujours la même histoire. L'État ne dira sans doute jamais ce qui s'est exactement passé ce 21 août 2014 dans la voiture des flics de l'unité d'escorte qui emmenait Abdelhak Goradia du centre de rétention de Vincennes à l'aéroport de Roissy, d'où il devait être expulsé. Abdelhak est mort. Les flics lui ont fait croire qu'il allait voir l'infirmière. Ils lui ont mis des menottes, un casque sur la tête et l'ont saucissonné pour être sûr qu'il ne résiste pas. Il est mort, asphyxié, étouffé. La police a déclaré qu'il était mort naturellement, d'une crise cardiaque. Puis, ils ont dit qu'il s'était fait volontairement vomir. C'était la deuxième tentative d'expulsion. Lors de la première, les flics s'étaient déjà montrés violents et acharnés. Et c'est le commandant de bord qui avait refusé de le prendre à bord de l'avion. Au centre de rétention, en apprenant la mort d'Abdelhak, des retenus ont cassé du mobilier et une grève de la faim a commencé. Il y a 6 ans et 2 mois, le 21 juin 2008, Salem Souli est mort au centre de rétention de Vincennes. Malade, il avait demandé à voir un médecin, ce qui lui avait été refusé. Il s'est allongé et ses compagnons le retrouvaient mort quelques heures plus tard. Le lendemain, une révolte collective a éclaté et le centre de Vincennes a été totalement incendié. Les techniques d'expulsion dans les prisons pour étrangers sont toujours les mêmes. Les retenus qui ont déjà résisté à une expulsion ou qui ne se laissent pas faire sont appelés dans le micro pour un faux prétexte, une visite, aller chez le juge ou à l'infirmerie, ou embarquer au milieu de la nuit. Ils sont menottés dans le dos, jambes entravées, cagoule et casque sur la tête, étranglés pour empêcher de crier, ligotés avec du scotch. Plusieurs sans-papiers sont déjà morts, assassinés par la PAF, police de l'air et des frontières. Ricardo Barrientos, en décembre 2002. Mariame Getu Agos, en janvier 2003. Entre 2000 et 2014, plus de 130 personnes ont été tuées par la police. Mortes en prison, comme Gordana Jovanovic à la maison d'arrêt des femmes de Fleury le 2 novembre 2012. Morts au mitard, comme Éric Blaise le 13 novembre 2005 à la prison de Fleury-Mérogis. Morts dans un fourgon, comme Lamine Dieng le 17 juin 2007. Morts du taser, comme Loïc Louise le 3 novembre 2013. Morts du flashball, comme Mostafa Ziani le 13 décembre 2010. Mort au commissariat, mort lors d'une course-poursuite, comme Baba Traoré, le 4 avril 2008, qui tentait d'échapper à un contrôle de police et qui s'est noyé dans la Marne. Mort d'une balle dans le dos, comme Amine Bentoussi, le 21 avril 2012. Mort aux frontières de l'Europe, comme 14 000 migrants depuis 1988. Partout, c'est la même histoire. Qui n'a pas entendu parler de cette histoire à Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis, où Mike Brown a été tué de plusieurs balles dans le dos et à la tête par les flics. C'était le 9 août dernier 2014. Il est mort parce qu'il était noir, parce qu'il était pauvre. En réaction, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour manifester et s'affronter avec la police. Pendant plusieurs nuits, des émeutes ont éclaté malgré le couvre-feu instauré par l'État. La violence des flics est toujours la même. C'est celle de l'État, de la société. La police, comme la justice, et la prison est là pour garantir son bon fonctionnement basé sur l'exploitation économique, la domination sociale, l'oppression raciste. Il s'agit de tous nous soumettre et de protéger les riches. Et pour cela, la police réprime, tue et mutile. La justice condamne et enferme. Face à cette violence, la solidarité est nécessaire et doit s'exprimer partout. Du centre de rétention de Vincennes à Ferguson, solidarité face à la police et à l'État.
Alors, donc, comme on l'a appris dans ce texte, donc, suite à la mort par asphyxie d'Abdelhak Goradia, donc, les prisonniers du bâtiment 1 du centre de rétention de Vincennes se sont mis en grève et ils ont transmis un communiqué avec des revendications. Nous, retenus du bâtiment 1 du CRA de Vincennes, demandons que des journalistes puissent venir voir les conditions de vie dans le centre, que les acteurs des violences envers M. Goradia soient punis car ils l'ont tabassé à mort. Que la durée de rétention soit réduite à 20 jours, car il y a trop de violence. Ce n'est pas la peine, 45 jours, ça ne sert à rien. Que la nourriture soit améliorée. On mange très mal alors qu'on n'a pas demandé à être ici. Une partie de la police est très agressive verbalement et fait des provocations. Ils vont jusqu'à dire des insultes dans le micro. Ils hurlent et font des gestes obscènes. On ne négociera pas, on continuera la grève de la faim tant que nos revendications ne seront pas satisfaites. Par ailleurs, il y a du coup des témoignages qui ont été recueillis par téléphone et je vais vous faire part de deux témoignages. donc le premier. On est stressé parce qu'Abdelhak est mort. Son nom n'était pas affiché sur le tableau des expulsions. Ils l'ont appelé quand on était en train de faire la prière vers 18h. Dès qu'on a fini, il est descendu soi-disant parce qu'il avait une visite. Dans un local de l'accueil, les flics l'ont frappé. Ils lui ont mis un casque, des menottes au poignet et lui ont entravé les jambes. Les flics savaient qu'il allait refuser, alors ils ont fait la force avec lui. Ils avaient tenté de l'expulser une première fois le quatrième jour après son arrivée. Il ne savait pas comment ça se passait. Il est parti tout seul, dans une petite voiture, voir le juge, et pas dans une camionnette comme habituellement. Déjà, les flics l'avaient menotté aux jambes et aux poignets. Il a refusé l'expulsion. Dès la première fois, ils ont fait la force. Ils avaient la rage contre lui. Ils font n'importe quoi avec nous. Même ses affaires sont encore ici. Son portefeuille, sa veste. J'arrive pas à dormir, je stresse. Il dormait sur un matelas par terre, à côté de moi. Je voyais sa tête. Et maintenant son matelas est vide, ça me stresse. On était décidés à tout brûler. J'ai vu la dame de l'ASFAM et j'ai pleuré. On a décidé de faire la grève de la faim. Et un deuxième petit témoignage. On est toujours en grève de la faim. Le commandant n'est pas revenu nous voir depuis vendredi. Donc depuis le 22 août, et là on était le 26, donc mardi le 26 août. La nuit a été calme, mais les policiers continuent de nous provoquer. Ils veulent qu'on mange et ils nous cherchent. Ils veulent qu'on craque. D'habitude, il y a deux policiers dans les parties communes. Là, ils sont 5 ou 6.
26, c'était hier en fait, hein, mercredi 26, le communiqué, voilà, c'est ça. Et là maintenant, on va écouter donc un... Ce sont deux retenues de Vincennes pour voir que ce CRA de Vincennes, les conditions ne changent pas d'une année sur l'autre. Alors ça a été enregistré par téléphone des gens qui étaient à l'intérieur du CRA en 2012. Donc voilà, on écoute les paroles des détenus du CRA de Vincennes.
En fait, je suis dans le centre de détention administrative de Paris-Vincennes. C'est situé dans le 12e arrondissement de Paris et ça jouxte le bois de Vincennes. Et donc j'y suis depuis le 27 janvier. Et suite à un contrôle de police, il se trouve que j'ai été présenté deux fois au pied de l'avion. J'ai refusé. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on vous attache. Hein, parce que normalement, selon la loi, lorsqu'on refuse, on est passible d'une peine allant jusqu'à 3 ans et 750 000 euros d'amende. Mais moi, j'ai refusé. On m'a ramené au centre. Une semaine après, on m'a ramené. Et là, franchement, j'ai été menotté. Et voilà, tenu par près de 5 policiers. Et j'ai gigoté, j'ai crié. Ils ne m'ont quand même pas amené et devant le procureur pour m'inculper pour le refus d'embarquement. Ils m'ont ramené dans le centre en attendant qu'il y ait un autre vol. Donc voilà quoi, ils violent la loi comme ils veulent.
Hier, il y a des gens qui se font taper par la police, tu vois. Nous, on a besoin, tu vois, des journalistes ou des radios, on a besoin de quelques trucs comme ça, tu vois. Là, je suis centre Vincennes, de Château Vincennes. Tu connais la centre déjà, tu vois. Parce que ici, tu vois, et là, je suis ici depuis 3 jours. Il y a 5 têtes, là, le centre, il est blindé, tu vois. Il y a des gens ici qui font des grèves de faim. Là, il y a deux qui font des grèves de faim. Ça fait 8 jours ou 9 jours, tu vois. Si tu annules le vol, tu vois, la première, la deuxième, la troisième fois, il te prend avec violence. Hein. Hier, il prend 2 mecs ici avec violence. Devant tout le monde. Hein. C'est 4h du matin. Il y a des gens qui se tapent. Il y a des gens qui font des cordes. Il y a des gens, tu vois. C'est trop de galère, franchement. Pour le nourriture, c'est pas un problème, tu vois. C'est pas le problème de nourriture, tu vois. Le problème, il y a personne qui t'écoute ici, c'est ça. Hein. Et en plus, si t'as pas le moyen, tu vois, pour l'avocat et tout, c'est encore pire. Tu vois. Et 45 jours, il n'y a pas de crime. Déjà, t'as pas de papier, tu vois. C'est quoi les crimes? T'as pas de papier. Donne-moi un kit. J'ai quitté le territoire. Je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui font des grèves de faim ici, tu vois. Mais les gens ici, tu vois, 8 jours, il a pas mangé. Il y a beaucoup de monde ici qui fait des grèves de faim. Violence, tu vois. Dès que tu parles mal, violence. En plus, 45 jours, tu vois, pour rien de tout, pour rien. À l'ancien, il était 5 jours, tu passes au juge. Là, tu passes au juge, tu ne sais pas 5 jours. Après, tu passes au juge. Le juge était dans 20 jours direct, tu vois, il ne parle même pas. Il y a deux gens, il y a ici, il y a un Tunisien, là ça fait deux jours, il y a sa sœur qui est morte, tu vois. Hier il avait un crise de ouf, tu vois. Et même il a donné des médicaments en faux, tu vois. Même à l'hôpital, il m'a dit à l'hôpital, il court avec lui à l'hôpital, avec le chien, le placard, il a tombé à l'hôpital, tu vois. Et franchement, on a besoin de, je sais pas, on a besoin de d'un truc, tu vois, on a besoin d'aide, tu vois. Parce que personne qui t'écoute ici. Tu vois? On n'a rien fait de mal, mais voilà. J'ai pas de papier. On n'est pas affiché pour des vols, pour des drogues, pour des. On n'a rien, tu vois. Juste on n'a pas de papier, c'est tout.
Déjà, ici la bouffe, c'est tout congelé et tout, tu vois, c'est truc de merde. Tu vois, on est pas presque tous des musulmans. On a demandé pour faire de viande halal, il veut pas. Déjà ça. Et encore, il y a des violences qui, quand les gens, ils le prennent, comment on dit, pour l'expulser. Il y a des violences, franchement, bizarres. Surtout, hier, il y a un événement il y a deux qui l'ont pris pour l'expulser. Ils l'ont frappé, franchement, bizarrement et tout. Et tu vois le choc qu'ils nous mettent, franchement ils sont trop violents quoi. Ils sont trop violents, surtout dans le truc de quand ils prennent quelqu'un pour le prendre à l'expulsion quoi, pour l'expulser quoi. Pour l'instant c'est trop serré avec les élections là qui ça se passe maintenant, tu vois. Ils veulent essayer de débarrasser plus que plus possible quoi. De temps en temps il y a des violences parce qu'il y a des médecins qui comme hier il y a quelqu'un qui est venu de Belgique, tu vois, et après il a oublié le papier là du médecin. Il veut l'examiner parce qu'il a des crises d'épilepsie. Et le médecin, il l'a pas cru, ou je sais pas quoi, jusqu'à, il a pris une vraie crise d'épilepsie, il a tombé par terre, franchement, violemment, il a pris un coup de tête dans sa tête, et les pompiers sont venus, ils ont fait des examens et tout, et après, ils disent, ouais, elle a un malade de crise d'épilepsie, et maintenant, elle le donne ses médicaments. Tu vois, il fait pas ça, vite fait, quoi. Quand tu lui dis, ouais, je suis en crise d'épilepsie, ou un malade, une maladie comme ça, il le prend pas du sérieux quoi. Je sais pas, est-ce que tu on veut un peu de liberté quoi, un peu d'humanité quoi. Quand même, on n'est pas des criminels ou on n'est pas on est seulement des gens qui connaissent son papier quoi, c'est tout. Tu vois. On n'a pas de papier, c'est tout. On n'a pas des criminels, on n'a pas des gens qui, sauf on a une faute qu'on n'a pas de papier. Et cette faute-là, tu sais, tous les pays arabes maintenant, il y a des guerres, il y a des événements et tout. Comment tu peux retourner comme la Tunisie ou l'Égypte ou je sais pas la Syrie? Comment tu peux retourner à ces pays? Toutes les jeunes là, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire quoi là-bas? On va faire quoi en Tunisie? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Imaginez qu'est-ce que tu vas faire. Tu vois, ça améliore pas les trucs. Encore, il y a plein de gens qui sont... Ils veulent pas retourner. Et à chaque fois des attentats, des suicides, tu vois.
Toujours,
presque toujours, il y a des attentats, des suicides ici.
Il y a personne qui t'écoute aussi.
S'il vous plaît, passe mon message. Je sais qu'il veut, tu peux pas venir ici pour faire parce qu'il te laisse pas rentrer, mais franchement, là, c'est bien.
Beep.
Et voilà, on précise donc que c'était en 2012 et c'était des retenues du CRA de Vincennes qui témoignaient d'une situation qui perdure puisque les événements dont on a parlé viennent juste de se passer maintenant en 2014, deux ans après les élections, comme il disait là. Rien n'a changé.
Et alors maintenant, on part à Genève où le mardi 25 août, la première pierre d'un nouveau centre de détention administrative est déposée. Donc, c'est donc une prison pour étrangers. Près de 150 personnes se sont rassemblées pour dénoncer la construction de la nouvelle prison. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Genève, garde ta dignité, expulse ton hostilité » ou « Pas de moutard au mitard ». On ne peut pas d'un côté mettre en avant Genève comme la capitale des droits humains et de l'autre construire une gigantesque prison pour des personnes dont le seul délit est de ne pas avoir de titre de séjour, clame Aldo Brina, président de Stop Exclusion, association luttant contre l'exclusion et la xénophobie à l'origine du rassemblement. Eh bien, on voit que ces contradictions n'arrêtent personne. Donc il y a eu plusieurs discours et à l'issue de ces discours, une partie des manifestants est montée en direction de l'hôtel de ville où se tenait une cérémonie pour commémorer les 150 ans de la signature de la première convention de Genève. Scandant les prisons au feu, Pierre Maudet au milieu, ils ont été rapidement bloqués par la police et la manifestation s'est dissoute sans heurts vers 19h30.
Une pause musicale.
À pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. J'ai pris un train en partant, c'est un train de voyageurs qui traverse la France pour aller voir ailleurs. J'ai pris un train vers 22h pour m'en aller au petit bonheur. À pied, à cheval ou en voiture, vers de nouvelles aventures. Aïe, aïe, la vie dure. La vie du rail, à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. Chacun bouquine son magazine, un pédicure mate mes chaussures. Le bruit des rails horizontales berce la nuit à l'infini. Un homme d'affaires somnole comme une casserole et son voisin rouspète derrière ses lunettes. Deux militaires sirotent leur bière, v'là le contrôleur sous sa visière. Les lumières d'une ville défilent comme des lucioles au ras du sol. Une dame sort un caniche de sa valise, un mangeur de sandwich en met plein sa chemise. Aïe, 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 la vie dure. À pied, à cheval ou en voiture. On vient de passer sous une montagne, une étudiante épluche une banane. La veilleuse dans ma ligne de mire, j'arrive pas à dormir. Le long de ce chemin de fer, entre souvenir et devenir, on ne revient pas en arrière, même quand on s'aime, il faut partir. Aïe, aïe, la vie dure, 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 la vie du rail, à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. Un train sans correspondance, un train de voyageurs qui traverse la France pour aller voir ailleurs. Roule, roule la diligence comme un bandit sur la paille. J'ai pris mon mal en patience. Dur, dur, la vie du rail, à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. À pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles toujours plus belles, éventuelles ou virtuelles aventures.
Titre de...
bon voyage.
Et voilà, et maintenant nous allons entendre des extraits d'un témoignage sur l'univers carcéral de Clairvaux. En fait, ce sont des ateliers d'écriture qui se sont déroulés à partir de 2008 avec un compositeur, Thierry Machuel, qui était en résidence donc à Clairvaux et qui a recueilli donc les paroles des détenus. Ce coffret comprend deux CD de musique, puisque les textes ensuite des détenus ont été mis en musique, et musique aussi assez intéressante, puisque c'est en lien aussi avec l'abbaye et les moines de Cîteaux. Et donc, on n'entendra pas hein, ces morceaux de musique. Nous, ce qu'on va vous passer, c'est quand les détenus parlent. On le voit donc dans le DVD, ils sont de dos. Et ils parlent de conditions dans les prisons, mais qui sont valables, pas qu'à Clairvaux. Parole de l'oubli, comme ils disent. Ils parlent du temps qui passe. Ils parlent aussi de leur identité. Donc, nous allons écouter un premier extrait des témoignages des détenus de Clairvaux. Je précise que le DVD s'appelle Clairvaux hors, OR, hors les murs. Et donc, nous écoutons la parole de Clairvaux.
Je reconnais.
Je vis dans la prison depuis très longtemps. Et là, comme on l'a déjà évoqué, la scansion du temps, elle est déterminée vraiment par des rythmes qui sont différents. Hein. Il y a voilà, un tempo très, très lent. Hein. À côté de ça, il y a quand même, de temps en temps, des moments de lumière, un rayon qui...
ça apparaît dans le poème.
Hein, qui s'immisce, et puis qui anime ce temps.
Moi, j'ai passé des années à cavoir des murs. Vous imaginez, quand je suis arrivé ici, que j'ai commencé à voir dans la forêt, être à l'affût de regarder les oiseaux, quel oiseau volait autour de la centrale, tout ça. C'est vraiment bien. Je veux dire, voilà, on est proche de la nature, malgré qu'on soit éloigné des villes, tout ça. Mais moi, je préfère ici, ou peut-être à d'autres centrales, où on ne voit que du béton. La nature, ça apaise, de voir des arbres, de la cellule, ça apaise, d'entendre des oiseaux la nuit ou la journée, ça apaise, c'est un apaisement, c'est sûr et certain. Je vous dis, le soir, des fois, je vois des chevreuils venir manger, je tape dans le mur de mon collègue, mon voisin, et je dis, regarde, il y a les chevreuils qui viennent manger. Après, ça fait le tour des cellules, et regarde, il y a les chevreuils, voilà. Ça apaise, vraiment, quoi. C'est vrai que c'est important, je pense, la nature. La plupart des quartiers d'isolement, ils sont faits d'une manière qu'on a la vue presque sur rien. Quoi. C'est beaucoup de quartiers d'isolement qui sont faits à rez-de-chaussée, à l'écart de la détention. Et on voit rien, on voit que du béton, que du mur. Les promenades, elles font la moitié de là, voilà, 4 mètres sur 5, avec 3-4 couches de grillage par-dessus, on ne voit rien. Puis on marche comme on met en cage toute la journée, on ne voit rien. Des fois, de temps en temps, on arrive à voir le ciel, on voit un rayon de soleil qui passe dans la promenade, ça nous fait plaisir, on se met à l'endroit aussi qu'il y a le rayon de soleil qui filtre, on se met dessous. C'est notre vie.
Les oiseaux aussi. On entend les oiseaux, je fais une petite niche, je vais dans la manger sur ma fenêtre, parce que ça me plaît. C'est... Ouais. Moi, ma fenêtre ici, je donne des cacahuètes. Et je passe des heures, moi, sur la fenêtre, pour avec les oiseaux. Ils viennent de là. Hein. Des fois, ils rentrent en cellule. Alors, des fois, je les fais rentrer, et je ferme la fenêtre, ils restent un peu avec moi en cellule. Il vient, il se pose, il regarde, il tutue, il chante, j'ouvre la fenêtre et il repart. L'autre jour, j'avais pris un petit ruban et je l'accroche au pied. J'ai deux jours, je l'ai plus revu. Et après, il est revenu, il mange le cacahuète. Ça, je le reconnais.
Je me souviens, lorsque les premières roses ont fleuri l'année dernière, il y avait un copain qui, chaque fois qu'il sortait, se précipitait, se penchait sur la rose et respirait l'odeur. Et tout de suite après, il y avait un sourire qui s'épanouissait sur ses lèvres. Et ça a duré tout l'été. Et bon, ça avait là aussi un côté, je ne sais pas s'il éprouvait, mais s'il éprouvait, en tout cas, ça se voyait sur son visage. Quoi. Et le fait de pouvoir toucher, un brin d'herbe, un mulot ou je ne sais pas quoi, respirer l'odeur d'une fleur, bon, c'est simplement redevenir humain, quoi. Si on n'est pas toujours quand on est prisonnier, ou pas complètement.
Avec tout ce que j'ai subi là, ces années d'isolement, tout ça, je me suis dit, quand il vient mon ami, on parle de chasse, des fois je lui dis, je crois bien que je vais sortir, je vais arrêter de chasser. Parce que je me dis, je vais chasser beaucoup le sanglier, peut-être. J'aurais peut-être un peu plus de respect de la vie animale, peut-être la vie de n'importe quelle vie, même humaine, je veux dire. J'aurais peut-être une autre vision des choses. Et à mon ami, quand il vient, je dis toujours, je crois bien que je vais arrêter de chasser quand je sors. Et je vais arrêter de faire de tuer des sangliers, de faire du mal. Et nous, on a des chenilles, vous savez, on a une cinquantaine de chiens, ils sont enfermés dans les chenilles. Et plusieurs fois, quand je suis passé en procès, parce que je me suis évadé, on m'a parlé de mon évasion. Et on m'a dit, ouais, vous comprenez, vous êtes évadé. Je dis, monsieur le président, je dis, vous savez, moi j'ai des chiens, ils sont enfermés dans les chenilles. Et les chiens, quand j'ouvre le chenil, ils partent en courant dans la colline, j'en veux plus les rattraper. Ils sont enfermés toute la journée. Le seul esprit de chien, c'est la liberté. Je dis, moi, j'ai pris ma liberté. Je dis, c'est vrai, on a fait une trousse au grillage, on s'est évadé. Mais j'ai repris ma liberté, j'ai rien fait de mal. Je dis, vous en connaissez des êtres humains qui vous ont enfermé toute la journée, ou des animaux, un animal enfermé. N'importe quel animal, vous ouvrez la porte, il s'en va. Un canari, vous ouvrez la porte de la cage de la tour, il s'en va. Je dis, voilà. C'est pour ça que mon ami qui est venu, je dis, ouais, les chiens, ils sont enfermés toute la journée quand même. C'est une drôle de vie. Pourtant, c'est des animaux, c'est des chiens. Mais je me rapporte aux animaux enfermés. Je me rapporte. Alors l'être humain, c'est un animal. Hein. C'est peut-être un gros prédateur, mais c'est un animal enfermé. Et puis il est comme ça. Voilà. Demain, je sais pas. Demain, le mur qui tombe, je vais pas dire, je reste ici. Je vais peut-être partir en courant. Hein. Comme j'ai toujours dit. Ça, c'est l'être humain, comme ça, qui a envie de prendre sa liberté. Voilà.
Alors maintenant, on va partir aux États-Unis, où parmi les sujets avancés à propos de l'assassinat du jeune Mike Brown, 18 ans, par balle dans la tête et dans le dos, le flic aurait en fait vidé son chargeur, soit au moins 10 balles, le 9 août à Ferguson, banlieue ouvrière de Saint-Louis. Il y a celui de la militarisation de la police, notamment avec le recyclage des équipements militaires de l'armée américaine, blindés, avions, hélicoptères, mitrailleuses, fusils d'assaut, treillis, lunettes et jumelles de vision nocturne, dans les divers corps de police, dont les polices locales, polices de comté et de ville, leurs unités anti-émeutes et leurs commandos. C'est ce qui a fait que le déploiement policier à Ferguson faisait penser à une de ces multiples scènes vues de Bagdad il y a quelques années, ou d'une quelconque zone de guerre. Jusque-là, la vraie police militaire aux States, c'était la garde nationale, qui est une force militaire, en partie active, en partie de réserve, mobilisable à tout moment, à l'extérieur comme sur le sol des États-Unis. Ils sont là pour tirer dans le tas et écraser militairement, dans le sang, les mouvements de rébellion, les grèves de mineurs et d'ouvriers, les émeutes raciales comme celle de Watts en 1965. Mais là, on parle d'autre chose, en plus, qu'on retrouve ailleurs, comme au Brésil, avec sa police militaire et ses sinistres brigades des opérations de police spéciale, mais qui est en fait plutôt une sorte de gendarmerie. Aux États-Unis, il s'agit surtout d'une modification lente et continue des polices locales, de chaque État, de chaque comté ou ville, chargées du maintien de l'ordre et du contrôle courant. Force commandée par des élus locaux, le gouverneur de l'État, le maire d'une ville ou le shérif d'un comté. Apparemment, le processus de cette transformation a commencé en 1994 avec une loi autorisant le transfert de l'armée vers la police. C'était des fournitures gratuites, des dons du Pentagone. Ça s'est beaucoup développé avec une partie des surplus, notamment de la guerre en Irak. Et puis, progressivement et parallèlement, il y a eu des budgets spécifiques dans le budget de la défense, qui ont été établis pour que ces polices locales, et d'État puissent s'équiper avec ce type de matériel. En 2013, ce budget d'acquisition était de 450 millions de dollars. À cela s'ajoutent bien sûr les budgets en hausse du département de la sécurité intérieure. Selon un article du New York Times du 8 juin dernier, au cours de l'administration Obama, selon les données du Pentagone, les services de police ont reçu des dizaines de milliers de mitrailleuses, près de 200 000 chargeurs de munitions, des milliers de pièces d'équipement de camouflage et de vision nocturne, et des centaines de silencieux, des véhicules blindés et des avions. Qui dit militarisation, dit guerre, dit armée d'occupation. Et c'est là l'une des raisons de la colère des habitants de Ferguson. Sommes-nous des citoyens américains ou une population dans un territoire colonisé ? Le jeune tué est un afro-américain, un noir, et la majorité des habitants de Ferguson, plus de 60%, sont noirs. On est là dans le sud des États-Unis. Et l'écrasante majorité des flics et toute la hiérarchie sont blancs. En 2013, 93% de personnes arrêtées à Ferguson étaient des afro-américains. Là où ça devient encore plus intéressant et fait le lien avec une autre actualité, c'est que certains effectifs de ces corps de police sont entraînés en Israël. En particulier celle de Saint-Louis. Et que même le fameux département de la police de New York a ouvert une succursale à Tel Aviv. Sous couvert de coopération et d'entraînement à la lutte antiterroriste, les policiers états-uniens vont en Israël étudier les méthodes du maintien de l'ordre et de la lutte contre-insurrectionnelle, où ils rencontrent régulièrement les chefs de la police, des divers services secrets et de l'armée d'Israël. Selon l'Anti-Defamation League, sorte de CRIF états-unien, alors c'est le conseil représentatif des institutions juives de France qui n'est pas vraiment réputé pour son progressisme. Depuis 2004, plus de 175 officiers de police appartenant à 100 services différents ont assisté à ces séminaires régionaux aux États-Unis avec des experts israéliens. Selon un think tank néoconservateur pro-israélien appelé Jewish Institute for National Security Affairs, 9500 responsables policiers ont participé au programme d'échange sur l'application de la loi depuis 2004. Le rôle et la place de l'État d'Israël dans l'industrie du maintien de l'ordre et de la répression n'est pas nouveau. Les techniques de surveillance, de contrôle des populations, de répression des manifestations et des soulèvements, de contrôle des frontières, expérimentées sur les Palestiniens depuis des décennies, sont ensuite exportées aux États qui en font la demande. Cela a commencé avec la Rhodésie sous domination blanche et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Puis les régimes militaires d'Amérique latine, l'Iran du Shah, les Philippines de Marcos, etc. Mais il est intéressant que cette donnée sorte maintenant. Des Palestiniens ne s'y sont pas trompés. Un groupe rassemblant des organisations et des personnes vivant en Israël, dans les territoires occupés et dans la diaspora, vient de lancer un appel pétition pour exprimer leur solidarité avec la population de Ferguson. Donc on peut trouver cette pétition qui s'appelle « Electronic Intifada ». Une semaine après l'assassinat, la police militarisée de Saint-Louis a été retirée et remplacée par la patrouille de la police des autoroutes. Un peu bizarre, mais bon. Dont le chef est un afro-américain avec une bonne bouille et qui a symboliquement rejoint les manifestants. Du coup, Ferguson ne ressemble plus à un territoire occupé. Il y a des policiers sans armes et sans véhicules blindés.
Je dis, ils l'ont transféré, il venait de le truc d'autoroute, et parce qu'il était afro-américain et qu'il venait de là. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont transféré, soi-disant peut-être pour qu'il soit plus compris.
Mais bon, apparemment, ça n'a rien réglé. Normal, c'est la police locale auquel appartient le flic tueur qui est chargé de l'enquête. En fait, le FBI en mène une aussi. Police locale qui pond pour la presse un rapport de 19 pages qui ne parle que d'un vol à main armée d'une cartouche de cigarillos à $48.99 qui aura été commis par le jeune Mike Brown. Et rien du tout sur le tir du policier. D'autant que le chef de la police de Ferguson s'est embrouillé dans ses explications lors d'une conférence de presse et a avoué que le policier tueur n'était pas au courant du vol de cigarillos. Le principal témoin, qui était avec le jeune Mike, affirme qu'ils ont été interpellés parce qu'ils traversaient la route en dehors d'un passage piéton. Version apparemment confirmée par la police vendredi soir. Aux agissements de la police transformant la ville en zone de guerre, s'ajoute donc une communication de la police qui d'une part cherche à accuser le jeune d'être un délinquant et à défendre le policier en laissant entendre qu'il a voulu l'interpeller pour ça. Et aussi que le jeune s'est rebellé et aurait voulu saisir l'arme du policier. Version infirmée par le témoin. Sans parler du nombre de balles tirées, qui reste secret. Le flic aurait tiré une seconde fois, alors que le jeune s'effondrait déjà à cause d'une blessure et d'une première balle reçue. Bref, ça sent l'exécution, le « shot to kill », donc le tirer pour tuer. Une caisse de solidarité a été constituée pour financer les frais de justice des personnes arrêtées, 43 au moment de sa création. Alors que la presse insiste sur le fait que le calme est revenu, le soir même de la conférence de presse, des manifestants ont tenté de bloquer la Grande Avenue. C'est alors que les flics, qui cette fois étaient habillés et équipés pour le maintien de l'ordre, casques, boucliers, bâtons gaz, ont voulu les repousser. Ça s'est échauffé, jets de pierre et de briques contre gaz lacrymo. Un témoin sur Twitter. Alors, c'est la police qui parle. Vous devez quitter cette zone. Votre rassemblement pacifique n'est plus pacifique. Réponse des manifestants, on vous emmerde. Vers minuit, le magasin où a été volée la cartouche de cigarillo a été vandalisé et pillé, et plusieurs centaines de jeunes se sont battus contre la police jusque tard dans la nuit. Des manifestations se sont déroulées au cours de la semaine dans tous les États-Unis, de New York à la Californie. Une nouvelle journée nationale d'action avait été appelée partout avec comme slogan « Justice for Mike Brown » par des groupes de Saint-Louis, mais aussi pour la fin des exécutions extrajudiciaires et de la police, mettant en cause l'ensemble du système juridico-policier de répression sociale raciste à l'échelle du pays tout entier, qui organise et couvre les assassinats. Et donc cette journée a donc eu lieu le samedi 16 août.
Voilà, et alors, comme on a vu que les polices entre elles et les États entre eux en font des liens, là, c'est juste une information qui a un lien avec le problème de la Palestine. C'est Washington qui accuse Israël de s'en prendre à la famille d'un Palestinien qui a été tué en juillet. Alors, il faut vous rappeler que suite à un fait divers de l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens qui ont été retrouvés morts, eh bien, il y a eu comme une espèce de vengeance et un jeune de 16 ans, Mohamed Abou Kader, a été enlevé le 2 juillet à Jérusalem-Est. Son cadavre entièrement brûlé a été retrouvé quelques heures plus tard près d'une forêt dans la partie ouest de Jérusalem. 6 extrémistes juifs ensuite ont été arrêtés. Le meurtre de ce Palestinien est fait partie de toutes les émeutes qui ont eu lieu. Et 3 jours après sa mort, eh bien, le 5 juillet, les États-Unis ont dénoncé l'arrestation par l'État d'Israël du cousin de ce jeune, Tarek Abou Kader, 15 ans, qui est également ressortissant américain, qui a été frappé lors de sa détention. Depuis, l'adolescent est sorti de prison et il est rentré en Floride. Mais il semblerait que l'État d'Israël n'en a pas terminé. Un autre cousin de Mohamed, lui aussi américain, a été arrêté. Et en fait, tout cela parce qu'il l'identifie comme Mohamed Abou Kader, portant donc le même nom que le jeune qui a été brûlé vif par les 6 extrémistes. Enfin, on ne voit pas quelle raison ça fait qu'être de la même famille d'un qui a été tué, on doit être arrêté. La responsable américaine a dénoncé que le fait que le consulat américain de Jérusalem n'a pas été informé par le gouvernement de son arrestation. Madame Aarf a expliqué qu'un agent consulaire n'avait pu rendre visite à Mohamed Aboukher que le 14 août après son arrestation. Et donc, après la mort du jeune et les interpellations de ses cousins, Tarek et Mohamed, eh bien, les États-Unis disent « Nous sommes également préoccupés par le fait que des membres de la famille Kader semblent être visés par des arrestations des autorités israéliennes. » Et le département d'État a d'ailleurs réclamé plusieurs fois à l'État d'Israël la libération d'un autre adolescent qui a la double nationalité, donc américaine et palestinienne, Mohamed Abouni, qui a été arrêté en juillet à Jérusalem-Est et qui aussi a été frappé pendant son séjour en prison.
Du coup, on revient en France, à Paris, où il y a eu près de 110 personnes interpellées à l'issue des deux rassemblements pro-palestiniens interdits qui s'étaient tenus dans le quartier de Barbès le 19 juillet et place de la République le samedi suivant. Un peu moins d'une dizaine d'entre elles ont été condamnées par la justice, dont certaines à des peines de prison ferme. Et c'est le cas d'un homme de 32 ans qui a été interpellé le 4 août à Paris et accusé d'avoir donné des coups de barre de fer sur une camionnette de la RATP avant de l'incendier avec une vingtaine d'autres personnes. Les dégâts étaient estimés à près de 26 000 euros. Donc cet homme a été condamné le mardi 5 août à 3 ans de prison ferme, ce qui est une peine quand même assez lourde pour juste des dégâts matériels, il faut quand même le noter.
C'est l'oubli de la faute, on ne peut pas l'avoir parce que ça nous va se graver. Quand ici on est puni, donc on a fait une faute. Après, oublier de ce qu'on a fait, on ne peut pas oublier. Que ce soit. C'est un mal qu'on a fait puisqu'on est ici. L'oubli ne peut pas y être. Ça nous marque. Voilà. Ça nous marque. Ça fait que l'oubli de la faute, moi personnellement, je ne peux pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Même pour mon futur, pour nous. C'est sûr et certain. Ne pas oublier la faute qu'on a fait, c'est une forme de repentance. Je pense, hein. Je le vois comme ça.
D'ailleurs, par le criminel, une négation, je parle dans le cadre du crime de sang, par le criminel, une négation de la part d'humanité qui est contenue dans l'autre. Hein, pour être réintégré en humanité, si on peut dire les choses comme ça, il faut que celui qui a commis le crime, à un moment donné, arrive à intégrer dans sa logique, dans son appréhension du monde et des individus, que tout homme, il y a quelque chose de sacré qui s'appelle l'humanité, quoi, même si ça a l'air. Même si j'ai l'air de. De prononcer des évidences. Le pardon, c'est autre chose. Hein, c'est, d'une part, c'est un choix de celui qui a subi. Hein, et puis d'autre part, c'est pas non plus un oubli. C'est. C'est dire, ok, t'as commis ça, mais je te réintègre dans le monde dont je t'avais exclu. Hein. Pas dans celui dans la société, mais dans le monde. La vie redevient possible avec toi, hein, alors qu'elle ne l'était plus.
On a toujours espoir. Hein. C'est de reconstruire notre vie pour ne plus revenir ici. Je pense que c'est beaucoup le but de beaucoup de détenus. Après y arriver, on n'en est pas sûr. Mais c'est sûr et certain, hein, c'est l'espoir de reconstruire notre vie. Quoi. Malgré qu'on soit obligé de se faire un système de l'incarcération, mais cette vie, il n'y en a pas. Hein. On lutte, quoi. C'est une forme de lutte.
On est des combattants. Oui. Moi, sincèrement, c'est pas la prison qui va me faire plier. Hein. Moi, je connais la vie dure et ils peuvent me mettre où ils veulent, même dans un trou. C'est pas eux qui vont me casser le moral ou qui vont faire quoi que ce soit. Les gens, on la connaît avec les Allemands et tout. C'est pas ça qui va nous abattre. Les Allemands, c'est dur sans être dur. Enfin, c'est dur pour certains, pour moi. Ça va. C'est honteux ce qu'ils nous ont fait subir. Regardez-moi, j'ai perpète. Si j'avais pas l'espoir, ça me serait. Et je n'ai qu'à prendre la corde à me pendre. Si je n'ai pas d'espoir, j'ai beaucoup de monde avec moi qui me soutient et tout. Si j'étais sûr de ne jamais plus sortir, qu'est-ce que je vais rester ici pour faire souffrir les miens et moi-même qui enferme 24 sur 24? Il vaut mieux finir, en finir. Pas vrai.
Sur demain, moi, ma famille, elle venait à m'oublier. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ou l'évasion, pour essayer de retrouver une vie extérieure. L'autre évasion, c'est le suicide. Mais je pense qu'une personne incarcérée, elle a toujours l'instinct de liberté. C'est logique. C'est une sorte de combat, une forme de combat avec la vie.
Alors, c'était un nouvel extrait du DVD Clairvaux hors les murs, donc réalisé avec des détenus de la maison centrale de Clairvaux. Donc, pour terminer cette émission, nous avons une annonce donc, du comité de soutien à la ZAD du Testet, qui se trouve dans le Tarn, donc la zone à défendre du Testet. Donc, le mardi 25, des barricades empêchaient l'accès direct aux forces de l'ordre. Des escarmouches sur celles situées sur le pont du Tescou ont eu lieu. Les gendarmes ont essayé de s'en approcher mais ont ensuite reculé, la barricade ayant subitement pris feu. Il y a eu des tirs de flashball mais pas de blessés. Donc s'ils appellent, du coup, il y a un appel lancé à présence, soutien et occupation du coup de la zone à défendre du Testet, car il faut rappeler que le déboisement et la destruction de la forêt peuvent démarrer dès le 1er septembre. Donc il y a besoin de monde, d'une présence, qu'elle soit d'une heure, d'une journée ou plus, et apparemment ils ont quand même précisé que ce serait mieux un peu plus, ainsi que de soutien en vivres et en matériel. Alors, je vous lis juste un tout petit extrait de l'appel. Donc, c'est parce que nous n'acceptons pas d'être classifiés, monétisés et déterminés par d'autres que nous-mêmes, nous occupons clandestinement la zone et nous opposons à ce gigantisme destructeur. Anti-autoritaire, autogestionnaire, nous nous organisons en mettant en pratique les idées qui nous animent. Aujourd'hui, le temps nous est compté. Montrons-leur que nous sommes nombreux, nombreuses, amis grimpeurs, pacifistes, barricadiers, barricadières, pirates, bâtisseurs et tous les autres. Pour la défense de la zone humide du Testet, venez nous rejoindre pour réoccuper la ZAD. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au 07 89 66 64 34. Et sinon, il y a une adresse mail, donc c'est collectifbouille, comme une bouille avec un S, @riseup.net. Et donc, ils appellent à les rejoindre dès que possible.
Il se termine. Je vous rappelle que l'émission est en direct le jeudi, mais que vous pouvez la réécouter le vendredi de 17h à 18h, que vous pouvez nous écrire à Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou alors par internet, bruit au pluriel, de Tôle, T-O-L-E-S, @no-log.org. Voilà, l'émission est terminée. Bon courage, à la semaine prochaine.
Et non, la semaine prochaine, c'est pas nous.
Ah non, c'est vrai, ça y est, le mois se termine. Oh là là, le temps passe vite. Et donc, le premier jeudi du mois, vous avez rendez-vous avec l'équipe de L'Envolée. Donc, dans 15 jours.
La liberté, c'est toute l'existence. Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus partons vers elle, l'air pur nature est bon pour la santé partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.
Ouais,
ça y est, tu vois.